Il est temps à présent de retrouver Backstage, le podcast, là où nous étions arrêtés fin décembre. Il s'agit du troisième épisode consacré à la traductrice José Camoun. Et Backstage, le podcast, ce sont Margot Delpierre, journaliste radio, et Thomas Langlin, technicien du son. Ils nous font découvrir les coulisses de la création par la voix de ceux qui font la culture. Tout de suite donc, José Camoun au micro de Margot Delpierre sur un montage de Thomas Langlin. Un entretien, je le précise, enregistré en décembre 2018.
Il faut s'imposer un rythme pour
Ça oui, et je vais vous dire pourquoi, c'est très facile à comprendre. On va dire que vous traduisez une moyenne de 10 pages par jour, voilà, on va dire ça, hein, il faut bien prendre une unité comme ça. Vous en avez pour, selon la difficulté, selon les jours, la qualité de votre attention aussi, bien sûr. Hein. Vous allez en avoir pour 6 heures, 7 heures, 8 heures, ça va dépendre. Mais il faut bien savoir que si vous ne les avez pas faites, vos pages, pour des raisons X, ben vous n'en ferez pas 20 le lendemain. Hein. Donc il y a une sorte de budget page, si vous voulez. Hein. Quand vous signez un contrat, eh bien, vous allez à rebours, hein, vous prenez la date limite de la remise, et puis vous faites un planning.
Est-ce qu'il faut que vous donniez vos feuillets déjà traduits à la maison d'édition ? Comment ça se passe, l'avancement d'un projet comme
ça ? Ah non, pas du tout. Vous remettez tout à la dernière minute.
Il n'y a que vous, finalement, qui puissiez savoir que c'est bien traduit. Je veux dire, il y a une responsabilité. La maison d'édition ne peut pas passer derrière vous et dire « moi, j'aurais pas dit ça comme ça
ou... ». Eh bien si. Ça, c'est intéressant pour peut-être les gens qui ne savent rien du processus de fabrication d'un livre. Hein. Si. Alors, ce qui se passe lorsque vous remettez votre traduction, c'est qu'elle va être relue par des gens qu'on appelle les préparateurs. Alors, vous avez d'abord un préparateur qui maîtrise bien la langue anglaise en général, hein, même s'il n'est pas spécialiste de langue anglaise, il la maîtrise bien et j'ai eu l'occasion de m'en rendre compte assez souvent, et qui va relire votre texte avec le texte original sous le coude, et qui va relever peut-être des maladresses que vous auriez laissé passer, qui va relever des ambiguïtés, parce que lui c'est quand même un lecteur innocent, donc vous avez tout le temps en tête le texte original, et quelquefois ce qui vous paraît clair ne paraît pas clair du tout à quelqu'un qui ne l'a pas lu. Et donc, qui va s'interroger, va mettre un point d'interrogation dans la marge, va aller voir le texte et se dire « ah, d'accord, mais quand même, il faudrait peut-être l'expliciter, etc. » Vous voyez, donc c'est vraiment quelqu'un qui fait un travail à la fois de sens et de style. Donc, qui éventuellement va revenir aussi sur, encore une fois, sur une phrase un peu lourde ou... Voilà. Donc, ces gens-là sont très littéraires et relisent derrière vous. Et ce sont aussi eux qui vont repérer si vous avez oublié un paragraphe, il peut tout à fait arriver maintenant avec les ordinateurs, hein, qu'on en est sucré, hein, éliminé, hein, bon, bref. Et derrière eux encore, viendront des correcteurs qui vont s'occuper des graphies, qui vont s'occuper de la typographie, des majuscules, de la façon d'écrire un sigle, etc. Vous voyez, des petits détails comme ça. Sans compter quand on a un bon éditeur, un bon directeur de collection, comme on pourrait dire, il y a de fortes chances que ce directeur ou cette directrice de collection ait lu avec intérêt votre travail et vous ait interrogé dessus.
Donc il y a des filets de sécurité.
Absolument, c'est le mot.
Quelle qualité il faut pour être traducteur ? Parce que, par exemple, moi j'aime lire, j'aime la langue anglaise, mais je sais que ça m'arracherait les cheveux. Je sais que j'aurais pas la patience de traduire comme ça, ligne après ligne.
Alors moi, je pense qu'il faut avoir une qualité ambiguë. Il faut être obsessionnel. C'est un trait. Vous voyez, si vous avez une bonne base obsessionnelle, je pense que la traduction est une des meilleures façons de rentabiliser la névrose. Il en existe d'autres, mais celle-ci peut rapporter. Pas gros, certes. On est mal payé, ça peut rapporter quand même. Moi, je suis quelqu'un de profondément impatient. C'est-à-dire, je suis incapable de bricoler. À la rigueur, je peux revisser une ampoule, à condition qu'elle se laisse revisser du premier coup. Je n'ai aucune patience dans la vraie vie, sauf pour deux activités, la cuisine et la traduction. La traduction, alors là, je deviens effectivement perfectionniste. Je n'aime pas ce mot, je n'aime pas les gens perfectionnistes. Mais ça tient bien un peu de ça quand même. Hein. Il faut avoir un tempérament ressasseur. Ça, voilà. Ça, c'est le véhicule. Après, il faut maîtriser de littérature, de civilisation, de culture. Mais il ne faut pas être bilingue. Curieusement, les bilingues sont rarement des traducteurs. Mais pourquoi ? C'est facile à comprendre. Le bilingue, c'est une chose qu'il ne fait pas, justement. C'est bien traduire, parce que dans sa tête, il ne traduit pas.
Hein, ça se il ne fait pas l'effort.
Mais non, il n'y a aucun effort. Il pense double, il ne traduit pas. Le traducteur, c'est quelqu'un qui, justement, à la base, ne pense pas double. C'est quelqu'un qui a le goût de la langue, le goût du style, qui a toujours une oreille qui traîne dans un café, dans le métro, pour voir ce qui arrive dans la langue, les manières de dire.
C'est difficile d'en vivre, de ce métier de traducteur. Vous disiez à l'instant que
ah
c'était...
Ah oui, moi je ne suis pas au SMIC. Vous voyez, puis plus vous êtes perfectionniste, plus vous avez de métier. Bon, le métier vous fait gagner un peu de temps, bien entendu. Hein. Mais néanmoins, le métier vous donne aussi des exigences accrues. Et moins vous êtes payé, puisque vous êtes payé à la page. Donc, plus vous passez de temps sur votre page, moins vous êtes payé. Oui, moi, je ne suis pas payée comme une femme de ménage. Et je suis au sommet de ce qu'on peut attendre à la page, hein, pour l'anglais.
On est mieux payé quand on traduit des auteurs célèbres comme Philippe Roth
ou
comment ça se passe ? C'est le même tarif ?
Absolument. En revanche, si il en vend 300 000 exemplaires, là, vous avez des royalties, bien sûr.
Alors, comment ça se passe ?
C'est assez compliqué à expliquer. Je vais essayer d'être claire, parce que moi, j'avais rien compris au départ, si vous voulez. Donc, c'est pour ça que je vais essayer d'être claire, si ça intéresse les gens qui vont nous écouter. Donc, le traducteur va être payé à la page. Il va être payé, pour ce qui me concerne, 23 euros brut à la page. Ce règlement est considéré comme un avaloir. C'est-à-dire que, pour que vous touchiez des royalties, il va falloir qu'avec le pourcentage de 2% que vous avez, 2% c'est optimal. La maison Gallimard est très généreuse par rapport à ça, donc c'est pas partout comme ça. Donc une fois que les ventes ont rapporté assez avec ce pourcentage pour que vous ayez remboursé votre avaloir, ce qui va venir en plus, vous allez le toucher en royalties. Voilà.
Mais vous êtes payé uniquement à la page ? Ça veut dire que vous traduisiez le livre en 3 mois ou que ça vous prenne 1 an et demi, vous toucherez la même chose.
Absolument.
Mais c'est fou. Alors, il faut traduire vite, mais bien. Comment ça se passe ?
C'est un vaste sujet, si vous voulez. Hein. C'est assez compliqué, franchement. Hein. Je pense que, de la même façon qu'il n'y a pas de profil de traducteur, nous sommes des gens... La traduction, c'est la seule activité que j'ai pratiquée dans ma vie où on ne m'est pas dit « vous êtes atypique ». Parce que tous les traducteurs sont atypiques. Il n'y a pas de typique chez nous. Nous arrivons d'horizons extrêmement différents. Si vraiment vous voulez en vivre, il va falloir accepter un peu n'importe quel texte, travailler raisonnablement bien, mais pas sur des textes qui vous passionnent, parce que ceux-là, vous allez vouloir y durer dessus, vous comprenez ? Et essayer d'en faire un maximum. Hein ? Sans cynisme, en étant juste pragmatique. Mais comme pour moi, ça a toujours été un violon d'ingre, a priori, j'ai essayé de traduire des choses qui me passionnaient pour une raison ou pour une autre.
C'est pour ça que vous étiez enseignante à côté, vous l'êtes toujours ?
Ben, j'enseignais la littérature dans les classes prépa. Donc c'était fabuleux. Et c'était, enfin, j'allais dire, parfaitement complémentaire avec mon activité de traductrice. Mais enseigner la littérature et même la traduction dans les classes préparatoires littéraires, j'ai fait ça pendant 15 ans au lycée Henri IV, c'était prodigieux.
Ça vous manque pas de partager justement et d'être au contact des gens ?
On m'a posé la question tout récemment parce que j'étais allée faire quelque chose comme un atelier à Paris Diderot de traductologie et c'était extrêmement agréable d'avoir en face de soi des jeunes gens qui sont tout aussi passionnés par quelque chose d'aussi singulier. Hein. J'étais ravie de voir que la relève était assurée, non pas que j'en ai douté, mais je le voyais. J'étais ravie de voir leur humour, leur enthousiasme et c'était un moment heureux. Non, j'étais pas nostalgique. J'en ai bien profité.
Vous vous êtes jamais dit que vous-même, vous pourriez vous lancer dans l'écriture ?
Je pourrais vous faire une réponse facile, mais pas fausse. Je traduis précisément pour me préserver d'écrire. C'est pas la seule raison pour laquelle je traduis, bien entendu, mais c'est un à côté non négligeable. C'est pas que je n'écrive pas. Bien sûr, tout le monde écrit, et le traducteur aussi. En général, ça correspond tellement pas à mon attente que je crois que traduire me réussit beaucoup mieux.
C'est-à-dire ?
Moi, quand je vois ce que j'ai écrit, ça ne me va pas. C'est simple.
Ça, c'est votre côté obsessionnel.
Non, je ne crois pas. Non, non, non. C'est quelque chose de bien plus profond que ça. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot.
Ah Suspense. Je me demandais, puisque vous êtes beaucoup revenu dans l'actu il y a quelques mois avec la traduction, la nouvelle traduction de 1984, dont tout le monde s'est accordé à dire qu'elle dépoussiérait l'ancienne parce que vous utilisez le présent. Est-ce qu'il y a alors autant de traductions que de traducteurs ?
Alors, elle ne dépoussière pas l'ancienne, hein, cette expression est qui traîne partout. Mais elle renvoie à rien. Il n'y avait pas de poussière. Enfin, je crois que ce n'est pas du tout la question. C'est une nouvelle traduction qui n'a aucun rapport avec l'ancienne. Enfin, je veux dire par là que je ne me suis pas inspirée de l'ancienne. Voilà. Alors, autant de traducteurs, autant de traductions. Ah ben là, par contre, je vais vous dire oui, absolument. Oui, tout à fait. Écoutez, depuis que Shakespeare a écrit et mis ses propres pièces en scène, hein, personne n'a eu l'idée de dire « Oh, mais le maître avait très bien mis ça en scène, nous ne voyons pas pourquoi vous arrivez derrière. » Chaque metteur en scène arrive avec une lecture de Shakespeare. S'il n'en a pas, il ferait mieux peut-être de rester chez lui à faire du macramé, parce que quelquefois, en effet, vous voyez une mise en scène de Shakespeare, vous ne voyez aucune lecture là-dedans. Donc, mais une mise en scène évidemment digne de ce nom est une nouvelle lecture. Si peu que ce soit nouvelle, vous voyez. Et donc, autant de metteurs en scène, autant de mises en scène. Eh bien oui, je dirais la même chose, vous avez tout à fait raison. Autant de traducteurs, autant de traductions, bien sûr.